et Mitiku Belachev, le berger devenu chirurgien.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Ce n'est pas le travail qui nous dégrade, mais la façon dont nous le faisons. C'est une de vos devises, Mitiku, dans le livre, vous le racontez. C'est pas déshonorant d'être berger ou d'être laveur de carreaux. Il faut donner à tout son travail, toute son âme.
Oui, c'est par hasard que je ne suis pas resté berger, parce que naturellement, en étant berger, là où il n'y avait pas d'école, aucune autre alternative, j'étais destiné à être berger. Mais il n'y a pas de honte à être berger. J'aurais certainement été un bon berger. Le hasard a fait que j'en suis sorti, j'ai fait un parcours tout à fait atypique qui m'a amené à être un chirurgien. Mais moi, effectivement, ma philosophie, c'est pas le travail que nous sommes obligés de faire, qui déshonore ou dégrade, mais la façon de le faire. Il y a moyen de faire un bon travail là où on est. On peut être un fonctionnaire, un balayeur de rue ou un nettoyeur. Moi, je respecte toutes les personnes qui font n'importe quelle profession. Et il y a de bons nettoyeurs de vitres, il y a de bons ouvriers.
Et il y a des mauvais chirurgiens.
De mauvais chirurgiens, de mauvais contremaîtres, de mauvais directeurs aussi.
Oui. Je vous lis page 324 de votre livre, Le berger devenu chirurgien. J'ai un pied en Afrique et un pied dans l'hémisphère nord. Ça me permet de voir la relativité des choses. J'ai côtoyé la grande misère, mais également l'opulence. J'ai soigné tantôt un milliardaire déprimé, tantôt un affamé qui sourit. J'ai vu la dignité des démunis et la bassesse des nantis. C'est cinglant hein, comme livre, il faut le parcourir. Je vous le recommande vivement. En ce dimanche de la foire du livre, allez vous le procurer. Le berger devenu chirurgien. C'est notre invité, Mitiku Belachev. Mitiku, vous qui vivez sur place depuis 20 ans là-bas en Éthiopie, a une bonne réputation, on le connaît un peu dans le pays, lui qui est parti depuis 40 ans, Pascal Johannes.
Oui, c'est une figure de la ville et du pays. Tout le monde connaît son succès et je veux croire que la publication de son livre va encore augmenter, si besoin est, sa réputation.
Quand vous avez entendu parler de lui, parce qu'il a un nom un peu particulier, un Belachev, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce nom Belachev ?
J'ai eu de nombreux amis qui ont étudié la médecine et qui ont eu la chance d'être formés à l'hôpital de Huy, à la chirurgie, par celui qu'on appelait le professeur Belachev. Je pensais qu'il s'agissait de quelqu'un avec des origines russes ou ukrainiennes.
Alors j'imagine que justement avec votre nom, il y a eu pas mal de quiproquos avec vos patients, des quiproquos souvent révélateurs de petits racismes tristement ordinaires, des personnes qui avaient rendez-vous avec vous, le grand inventeur de l'anneau gastrique, le professeur. Parfois on venait d'Arabie ou de pays très très lointains pour consulter chez vous. Il y a eu des histoires assez folles.
Oui, il y a eu on m'imaginait, comme Pascal vient de le dire, et on m'imaginait effectivement quelqu'un originaire de l'Union soviétique de l'époque, avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Et donc ils allaient venir voir un chirurgien originaire des pays de l'Est. Et donc l'exemple, c'est que j'ai cité dans mon livre, c'est un malade de Moyen-Orient, très obèse, près de 200 kilos, qui vient me consulter. Et alors, il est dans la salle d'attente, l'infirmière l'amène dans mon cabinet de consultation. Et puis, je lui dis, voilà, bonjour. Et il regarde, il me dit, où est le professeur Belachev? J'ai dit, excusez-moi, mais c'est moi. J'ai suspecté, évidemment, ce qui allait résulter. Il me dit, non, il y a erreur. Je suis venu voir le professeur Belachev, pas vous. Je lui dis, excusez-moi, mais c'est bien moi le professeur Belachev. Et il a dit non, il y a erreur. Ouais. Donc il est parti en disant qu'il s'attendait à quelqu'un d'autre.
Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. C'est une phrase d'Einstein. Mais dans votre vie professionnelle, vous avez souvent été, à cause de vos origines, victime de préjugés.
Oui, mais je ne peux pas dire que j'en ai souffert, parce que c'est plus comique. Moi, je n'ai pas été affecté par ça. Pour cela, il y a peut-être mon origine éthiopienne aussi qui m'a aidé.
Parce et puis le côté belge, un peu second degré aussi, on prend les choses avec humour.
Exactement, et puis le fait que je sois né en Éthiopie, que je n'ai pas connu la ségrégation raciale, je n'avais pas de complexe d'infériorité, m'a aidé aussi. Et quand on est à un certain niveau dans une société, et le racisme affecte moi aussi, donc c'était plus comique et c'était prévisible. Je ne peux pas dire que j'en ai souffert, mais le préjugé est là, hein, et c'est vraiment difficile à supprimer.
Et j'en reviens à votre devise numéro 2, fais ce que doit et laisse parler les hommes. Allez, les cancans, on laisse tomber et on avance. Exactement. Droit devant et derrière, on oublie.
Exactement. Oui.
C'est bien de rencontrer des gens comme vous, positifs. Nous allons nous intéresser maintenant avec vous, Sophie Mergen, à l'Éthiopie qui pourrait devenir une référence en matière de développement technologique. Et là aussi, on combat les préjugés, on se dit Éthiopie, Afrique, etc. Non, mais ils sont à la pointe.
Tout à fait, parce qu'à Addis Abeba, la capitale, des jeunes diplômés ont créé le premier laboratoire de recherche en intelligence artificielle. ICOG, c'est le nom du laboratoire. Dans cette salle d'expérience, étudiants ou anciens étudiants programment des robots. Ils sont développeurs informatiques et leur rôle, c'est d'améliorer les logiciels pour que les robots reconnaissent les gestes et expressions humaines, mais aussi qu'ils puissent mieux classifier les objets et images. Alors vous allez le voir, tout ça peut avoir une vraie utilité. L'Éthiopie ne cache pas son ambition de devenir un centre d'excellence en recherche scientifique et technologique.
Alors ça paraît très futuriste, est-ce que c'est vraiment adapté aux besoins de l'Afrique ?
Bah effectivement, ça paraît incompatible avec les réalités locales, très traditionnelles. La communauté éthiopienne est d'ailleurs très critique envers ces technologies du futur. Les habitants disent qu'il y a des problématiques bien plus urgentes comme la lutte contre la pauvreté. Mais on serait étonné de l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle, notamment en matière d'éducation. Le laboratoire ICOG est en train de créer une application pour smartphone. Elle met en scène l'avatar d'un professeur éthiopien et cet enseignant robotisé est capable d'enseigner la lecture, l'écriture et même quelques notions de mathématiques. À terme, il devrait même pouvoir reconnaître les émotions des élèves et répondre à leurs questions.
Et c'est vrai qu'en Afrique, le smartphone et parfois même le Fairphone a été adopté très très rapidement.
Oui, le continent a adopté le smartphone pour la connexion Internet en sautant carrément l'étape de l'ordinateur. La révolution mobile a transformé la vie des habitants. 50% de la population subsaharienne devrait être équipée d'un smartphone d'ici 2020. Un vrai potentiel pour l'éducation. Les livres numériques ont par exemple un bel impact sur le taux d'alphabétisation. Et donc une application pédagogique peut avoir un vrai succès. À terme, l'idée est même de distribuer gratuitement des tablettes munies de cette application dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne. Il faut rappeler qu'il y a encore énormément de régions qui souffrent d'une pénurie de professeurs, d'un manque d'infrastructures, alors peut-être que l'avenir est dans l'éducation virtuelle.
Qu'en pense le professeur Belachev, notre invité ce matin ? Parce que je crois que vous soutenez encore une école dans votre région natale.
J'ai une école, oui, là où il n'y avait pas d'école quand j'étais berger, dans cette localité isolée. Mon premier désir était de créer une école il y a une quinzaine d'années avec un groupe d'amis belges.
Et des bénévoles belges qui soutiennent ce projet.
Qui soutiennent. Ah, ouais. Nous avons une association, une ASBL dans la région liégeoise qui s'appelle Salamta. Nous avons collecté de l'argent qui nous a permis de construire une école primaire dans le fond du cratère de Wenchi, qui est mon village. Une école, donc depuis 15 ans, il y a 700 élèves scolarisés. Pour revenir à la recherche très avancée en intelligence artificielle, et maintenant pas seulement ça, il y a aussi une recherche spatiale au sommet d'Addis Abeba, qui est la colline qui est à 3300 mètres d'altitude. Ils ont installé aussi l'observation de notre univers et ils ne désespèrent pas de lancer un satellite d'ici 2-3 ans, en fait. Donc, pourquoi faire ça dans un pays qui est considéré comme un pauvre? Moi, je crois que c'est une priorité de rester au sommet, même si en bas, ça ne suit pas encore. Mais c'est un exemple. Moi, dans mon domaine, quand j'ai introduit la chirurgie célioscopique et la chirurgie dite high-tech, où on opère sans ouvrir le ventre, mais avec des petits trous. Et on m'avait dit aussi que ce n'était pas une opération pour l'Afrique, ni pour l'Éthiopie. Non, il faut pas priver les gens d'une avancée, d'une technologie très avancée, même si La base ne suit pas. La base suivra. C'est un exemple. Il faut garder le sommet pour que la base soit attirée par le sommet.
La technologie au service du développement, c'est aussi un de vos combats sur place, Pascal Johannes.
Utilisant les services d'Ethio Telecom, nous servons à peu près 15% de nos bénéficiaires et nous leur remettons, par un système d'SMS, nous leur remettons de l'argent dans leur téléphone qu'ils peuvent échanger contre des vivres chez les marchands du cru, notamment dans nos programmes de support, de soutien aux personnes séropositives.
Ouais, c'est tout à fait étonnant hein, ce que vous nous racontez. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Directeur adjoint, merci beaucoup Pascal Johannes. Nous allons vous retrouver avec notre invité Mitiku Belachev dans quelques instants sur La Première, juste après avoir écouté une superbe chanson, Yael Naïm en duo avec Camille.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
I Wait Until, c'est une des nouvelles chansons de Yael Naïm. Elle était ici en duo avec Camille. C'est sur La Première dans les Belges du bout du monde, en Éthiopie. Ce matin, nos interlocuteurs sont Pascal Johannes, liégeois, directeur adjoint du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, et Mitiku Belachev, le berger éthiopien devenu chirurgien.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur La Première, les Belges du bout du monde.
Un Éthiopien en Belgique et puis un Belge en Éthiopie jusqu'à 10h sur la Première. J'ai envie de vous demander, Pascal Johannes, quand on dit Belgique en Éthiopie, on a, je sais pas moi, on a un côté un peu sympa. Qu'est-ce que ça évoque dans la mémoire des gens que vous rencontrez sur place, le mot Belgique ?
En fait, Belgique désigne un fusil qui se recharge par la culasse et qui était entre les mains des armées éthiopiennes quand ils ont défait les Italiens à la bataille d'Adwa en 1896.
Ah bon ?
Sinon, Belgique se dit Belgica. Mais Belgique, avec un long I, c'est le fusil qui a permis à l'armée éthiopienne de contrer les efforts de colonisation italienne à la fin du 19e siècle.
Ah oui, donc c'est un mot audacieux, quoi. Ça en jette, oui, quoi, quand on dit Belgique.
Oui.
Alors, très très bien. Je cite le professeur dans son bouquin, page 67. « Je veux montrer au monde que mon pays, l'Éthiopie, a toujours gagné avec détermination et héroïsme. » C'est ce que vous avez fait dans votre vie, hein. Vous êtes berger à la naissance jusqu'à 12 ans et puis vous devenez chirurgien avec beaucoup d'efforts sur votre route. Et finalement, vous soignez tout au long de votre carrière 30 000 patients, hein, si on compte pendant 30 ans de travail, 1000 patients par an.
Les 30 000 patients, pas seulement vus et soignés, mais opérés réellement avec anesthésie générale. Donc,
vous avez fait plus d'opérations que moi d'émissions.
J'ai opéré dans le monde entier, donc il y a plus que ces 30 000, c'était dans un seul centre. J'ai opéré dans 15 universités américaines, pas mal d'universités australiennes et européennes aussi. Donc,
pas mal, le petit berger. Hein.
Oui, donc j'ai travaillé beaucoup. Et alors, après ma pension, j'ai voulu aussi introduire cette technique de chirurgie célioscopique en Éthiopie. Donc, j'ai pas mal opéré là-bas aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'opérations que j'ai faites. Et en même temps, enseigner, c'était aussi mon rôle. Donc, j'ai enseigné ma technique, j'ai enseigné maintenant la chirurgie célioscopique en Éthiopie. Non seulement nous soignons des patients gratuitement, mais nous transférons notre savoir, nous formons des équipes de médecins et de paramédicaux sur place.
Pour assurer la relève.
Voilà.
Bravo, bravo. Alors votre pays, Mitiku Belachev, est aussi connu pour sa capacité à former des sportifs. Il y a des sportifs de haut niveau. Je vais vous faire entendre un document d'archives et je vous demandais d'essayer de reconnaître où ça se passe et en quelle année. C'est un événement auquel vous faites d'ailleurs allusion dans votre livre « Le berger devenu chirurgien ».
Au milieu des ruines de la Rome antique, le marathon part du Capitole. À mi-course, ils sont quatre en tête. Parmi eux, un homme qui prête à sourire. Il a 28 ans et n'a jamais posé ses pieds nus hors de sa terre natale. Personne n'a cru l'Éthiopien lorsqu'au moment de l'inscription, il a indiqué son temps, meilleur que celui du grand Zatopek lui-même. Plus qu'un kilomètre avant l'arrivée. Et maintenant, Radi doit laisser l'Éthiopien s'en aller vers son destin. Désormais, le nom d'Abebe Bikila résonnera toujours dans cette fabuleuse nuit romaine. Aujourd'hui, pour la troisième fois dans l'histoire, Rome et le royaume de Saba se sont affrontés, mais cette fois-ci sous l'arc de Constantin. Abebe Bikila a vengé Haïlé Sélassié et son peuple, écrasé sous les bombes d'Uduce, 25 ans plus tôt. En remportant le marathon de Rome, c'est l'Éthiopie qui entre dans la légende de la course à pied.
Abebe Bikila, premier Africain à gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était en quelle année ?
1960.
Bravo, professeur !
Nous avons fêté, parce qu'il était à l'école en ce moment-là. C'était un héros quand il est revenu, c'était une fête nationale. Non seulement le premier Éthiopien, mais c'était le premier Africain à gagner une épreuve olympique.
Et vous racontez dans votre livre son retour au pays, et vous étiez dans la capitale pour l'acclamer quand il est rentré comme un dieu vivant, ou presque. Ouais. Vous aussi, vous avez appris à marcher, première chaussure à l'âge de 16 ans. Vous marchiez pieds nus avec votre canne de berger. Vous avez encore cette canne de berger ?
Oui, j'ai plusieurs cannes, en fait. Je suis collectionneur de cannes de berger. Et oui, j'ai des cannes. Je marche toujours avec des cannes, mais maintenant, même si je n'ai pas de handicap ni rien, c'est parce que c'est un moyen de s'appuyer, parce que ça aide pour marcher.
Ah, le bâton de berger.
En même temps, c'est aussi un instrument de défense. Mais, et voilà.